du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Évangile d'aujourd'hui nous présente une situation pas très commode. Il nous présente un démonisé qui a été guéri par notre Seigneur. Et je voudrais qu'on retienne quelques idées de cette péricope qui est très claire, qu'on ne peut plus commenter parce que les choses sont les choses, sont les choses de la Sainte Écriture, qu'on les prenne comme elles sont. Donc c'est une démonisée qui a été guérie par Jésus. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire, cet épisode? Il veut nous dire que l'influence démonique, c'est une chose réelle. Vous avez tous ce qui signifie le mot « tentation ». On prie toujours, on prie chaque dimanche, quand on dit « notre Père », qu'il nous délivre de la tentation. C'est une réalité de chaque jour qui est présente dans nos vies, cette manière d'être tenté par le malin. Peut-être pour nous, pour l'homme moderne, c'est un peu bizarre de parler de démon, d'être démonisé et d'une histoire qui parle d'une guérison d'un démonisé. Pourquoi je dis que c'est bizarre pour nous, pour l'homme moderne, de croire ça? Parce que c'est difficile à accepter la présence du diable. C'est très difficile à accepter. À mon avis, c'est plus facile à accepter la présence de Dieu, l'existence de Dieu, que d'accepter l'existence d'un être personnel qui peut nous faire du mal. Mais le diable existe et le Seigneur nous présente dans cet évangile son existence. Si on veut ou si on ne veut pas, si on croit ou si on ne croit pas, les tentations existent. On affronte chacun d'entre nous, chaque moment de notre vie, des tentations. Je ne veux pas vous énumérer, mais vous le savez tous. Des tentations corporelles, des tentations qui partent de notre pensée, toutes les choses qui nous écartent de Dieu, et qu'on appelle tentation, et que tous les pères des églises nous enseignent de lutter contre les tentations. Pourquoi j'ai dit que c'est difficile pour nous d'accepter l'existence du diable? Parce que je crois qu'on a perdu un peu la conscience de la liberté. Je voudrais parler un peu sur la liberté dans mon homélie d'aujourd'hui. On croit qu'on est libre. Parfois on dit très fort ça, qu'on est des gens libres et que rien ne peut nous empêcher dans cette liberté qu'on croit avoir. Et dans cet esprit de liberté, et je dirais des fausses libertés, on permet à toutes les tentations de ce monde, toutes les tentations qui viennent de diable, de ce monde ou de nous-mêmes, on permet à tout ça d'agir en nous, en croyant qu'on est libre. Et on arrive petit à petit avec cette liberté. Avec cette fausse liberté, on arrive petit à petit dans un sort de monotonie. Je crois que chacun d'entre vous a expérimenté cette monotonie qui vient de temps en temps dans notre vie et on ne comprend pas d'où est-ce que vient cette monotonie. Parce qu'on est libre, on fait ce qu'on veut, on a ce qu'on veut, et pourtant on s'ennuie. C'est la monotonie qui est présente dans nos vies. Pourquoi ? D'où est-ce que vient cette monotonie si on est libre, si on est déjà libre ? Et le Père de l'Église nous explique ça. Ça vient d'une fausse liberté qui permet de pénétrer dans nos vies toutes les tentations du diable. Et si on fait ça, si on fait ça, si on accepte ça, si on accepte autre chose, petit à petit, on s'écarte de Dieu et on commence à travailler dans une autre direction. Vous savez, la définition plus importante qu'on peut donner à Dieu, si je peux dire comme ça, si on peut définir Dieu. Dieu, c'est amour. Le Dieu, il est amour. Il a créé le monde par l'amour de, par son amour vers l'homme et vers la créature. Il a créé le diable qui a été, la Bible nous dit, qui a été l'ange le plus important. Mais faites attention parce que ce n'est pas Dieu la cause du fait que le diable il est arrivé de nier Dieu et de lutter contre Dieu. C'est quoi ? C'est aussi la liberté qui est mal entendue. C'est aussi la propre volonté qui a été utilisée par cet ange d'une manière contraire à ce qui signifie la vraie liberté. Parce que la vraie liberté suppose, la vraie liberté, je répète, suppose d'être présent dans la vraie vie. On ne peut pas avoir la liberté si on n'est pas dans la vraie vie. Ne vous imaginez pas que vous êtes libre si vous n'êtes pas encore dans la vraie vie qui est Dieu. Ne vous imaginez pas. C'est la meilleure tentation qu'on peut avoir dans nos vies, de croire qu'on est libre quand on n'est pas libre. De croire que tout le monde nous appartient quand on a perdu Dieu. Je crois que comme ça, vous pouvez avancer pour commencer à comprendre que l'existence du malin, ce n'est pas un conte de fées. C'est une chose extrêmement réelle. Et on commence à croire ça même à partir de l'office de baptême. Si vous avez participé aux offices de baptême, vous avez vu que le prêtre commence l'office de baptême par quoi ? Par les exorcismes. Pourquoi ? Parce qu'on croit dans cette influence démonique sur l'homme et on prie Dieu au baptême de nous échapper de cette influence démonique. Donc voilà, comment est-ce que le diable peut travailler dans nos vies ? En nous donner l'impression qu'il n'existe pas et en nous donner l'impression qu'on vive dans la vraie liberté. La vraie liberté, c'est la liberté intérieure. Ce n'est pas la liberté de faire ce qu'on veut. Ce n'est pas ça la liberté. Parce qu'on devient des esclaves de nos passions. C'est très important de savoir comment les passions travaillent en nous. Voilà une autre porte qu'on ouvre aux actions du malin. De laisser les passions travailler en nous. C'est un sujet assez délicat, mais il faut l'aborder parce que on est tous dans l'Église comme dans un hôpital. On vient tous guérir ici nos blessures, on vient guérir ici nos péchés. C'est ça que c'est l'Église pour chacun d'entre nous, un hôpital. Et on ne peut pas dire qu'on n'a pas de péchés. Personne d'entre nous ne peut pas dire ça. On n'a pas de péché. Parfois, on cherche des choses très hautes, des choses très, très stylées, si vous voulez. Parfois, même dans l'orthodoxie, on cherche la surface de l'orthodoxie. On est très enchanté qu'on a des beaux icônes, qu'on chante très bien, la musique psaltique, c'est une très belle musique, que la prière de Jésus, on peut la pratiquer d'une manière exceptionnelle, mais on oublie quand même de nous travailler nous-mêmes, en nous-mêmes, les passions qui nous assautent chaque jour. À mon avis, il faut commencer par les passions, et après, je vous assure que vous allez découvrir l'orthodoxie d'une autre façon, d'une autre manière. Parce que, par exemple, quand quelqu'un qui vient à la confession et qui dépose tout devant le Seigneur, et je crois que vous tous, vous avez fait cette expérience d'une confession, après, vous allez voir que les choses, vous voyez les choses autrement. Vous sentez que vous avez touché l'essentiel. Donc, la liberté intérieure, c'est ça, c'est une liberté de passion, tout d'abord. Faites attention à ça. Faites-vous un procès intérieur pour voir un peu où est-ce que vous êtes et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à cette nettoyage intérieur de passion. Et après, vous allez voir que la grâce de Dieu viendra dans vos cœurs. J'insiste plus sur cette péricope, sur ce fragment de l'Évangile. Mais je voudrais que vous reteniez ces choses. Il ne faut pas vous laisser tromper. Il ne faut pas vous laisser tromper que le diable n'existe pas. Ça se voit chaque jour dans vos vies. L'influence du malin se voit chaque jour dans vos vies. Si vous ne croyez pas dans l'existence du diable, je vous conseille de renoncer à dire la prière « Notre Père ». Parce qu'à la fin de la prière « Notre Père », on dit « Et délivre-nous du malin ». Si vous ne croyez pas dans cette existence, ne dites plus « Notre Père ». Après, faites attention à votre vie spirituelle. Ne laissez pas les portes ouvertes pour que le malin travaille en vous. Et les portes ouvertes que vous pouvez laisser, c'est ça. Ce sont nos passions qu'on ignore parfois, qu'on croit qu'ils ne peuvent pas nous toucher beaucoup. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Avec chaque péché, on ouvre la porte du malin et on ferme la porte de Dieu. Faites attention. Vous avez la chance de vous approcher de la Sainte Communion. Vous avez la chance de vous approcher de la confession. Profitez-en. Profitez-en parce qu'on ne sait pas quand notre vie va finir. On ne sait pas du tout ça. Et on pourra se trouver devant le tribunal du Christ qui va nous demander « Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie ?» Et on ne pourra pas répondre. On n'aura pas la substance. Donc, profitez-en. Et essayez de trouver votre liberté intérieure. Ça, c'est très important. Même ici, dans l'Église. Essayez de trouver un peu la tranquillité, le silence d'une Église, la joie d'être devant le Seigneur dans notre liberté, la joie de dire non au péché et de dire oui au Dieu. C'est ça la liberté intérieure, la liberté qu'on peut travailler et qu'on peut avoir chacun d'entre nous. Il suffit d'avancer un peu, il suffit de chercher un peu. Et comme ça, on pourra échapper de cette monotonie de laquelle j'ai commencé à vous parler au commencement de mon homélie. La liberté intérieure, c'est une chose qu'il faut chercher toujours. Et pour ça, je voudrais vous lire un petit fragment du saint apôtre Paul, de son épître aux Éphésiens. Je m'adresse surtout aux Romains, à ceux qui vous êtes ici en France et qui peut-être considérez que votre liberté spirituelle, votre liberté intérieure est affectée. Parce que notre pays s'éloigne, c'est difficile de vivre ici, on ne trouve pas de repères toujours. Donc, pour vous, pour nous tous en fait, et pas seulement pour les Roumains, aussi pour les Français, aussi pour les autres, les autres nations. Pour voir un peu comment est-ce que vous pouvez trouver votre liberté intérieure. Voilà ce qu'il dit l'apôtre Paul. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des émigrés. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la famille des dieux. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et Jésus-Christ lui-même comme pierre fondamentale. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez trouver votre liberté ici, en France? Vous n'êtes plus des étrangers ni des émigrés. Vous êtes concitoyens des saints. Quelle liberté meilleure on pourra avoir en plus? Vous êtes concitoyens des saints. C'est l'apôtre Paul, c'est pas moi qui dis ça. C'est la Bible qui dit ça. Vous êtes concitoyens des saints. Qu'est-ce qu'on peut chercher en plus? Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut vouloir en plus de ça, d'être concitoyen de ça. Donc c'est à vous de chercher votre liberté intérieure. C'est à vous de comprendre aussi que dans cette liberté, vous êtes appelé pour une chose très importante. Et je m'adresse aussi à ceux qui viennent de Roumanie. Considérez votre présence ici. Votre présence comme orthodoxe, comme une présence qui peut être une présence missionnaire. Ne vous bornez pas dans un sort de je ne sais pas, on se rencontre entre nous et on reste comme ça. Parce que sinon, comment est-ce que vous allez répondre au dernier jugement quand le Christ va vous demander qu'est-ce que vous avez fait en tant que chrétien, qu'est-ce que vous avez fait en tant que chrétien orthodoxe en France? Parce que le Seigneur va nous dire, voilà qu'est-ce que je vous ai dit. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur, il ne dit pas, faites de Romains, ou faites de Grecs, ou faites de Syriens, ou faites des Arabes, des disciples. Non, il dit, faites toutes les nations des disciples. Donc, faites attention à ça. C'est pour nous tous, parce que je sens un peu la tentation de nous enfermer un peu, nous enfermer dans notre orthodoxie très beau. Mais essayez un peu d'être missionnaire du Christ dans ce monde. Pas dans une démarche, agressive. Non, non, non. Par votre vie, par votre présence, donnez un exemple, donnez un témoignage de votre vie chrétienne. Parce que je vous répète, Saint-Silouane Platonique, il disait, sauve ton âme et 1000 autour de toi seront sauvés. 1000 autour de vous seront sauvés. Si vous sauvez vos âmes. Donc faites attention à ça. Dépassez un peu. Parce que parfois, j'ai reçu des membres. Pourquoi est-ce qu'on officie en français? Pourquoi est-ce que vous prêchez en français? Quand est-ce qu'on va avoir une prêche, une homélie en roumain? Et je réponds. Quand il n'y aura plus de fidèles français ou syriens ou arabes ou grecs ou russes ou je ne sais pas quoi. quand on sera toute seule dans notre égoïsme, peut-être je parlerai que en roumain. Mais jusqu'à là, c'est pas possible. Notre foi, c'est pas une foi pour des égoïstes. Si c'est comme ça, on est libre dans une fausse liberté. On est libre dans la liberté du diable, si vous voulez. Si vous voulez assumer le Christ, si vous voulez assumer la parole du Christ qu'il nous a donnée, qui est présente ici, dans la Sainte Écriture, assumez-vous cette position d'être disciple du Christ et d'être missionnaire du Christ dans ce pays qui vous accueille, qui nous accueille chacun d'entre nous. Et vous allez voir les fruits de vos présences ici. Parce que sinon, comme Monseigneur Joseph nous a dit la dernière fois quand je l'ai vu, ce qui m'intéresse, il disait, c'est pas de savoir si après 100 années, on aura en liturgie, une liturgie en langue roumaine, ici en France. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on aura la liturgie, qui n'est pas en roumain, qui n'est pas en grec, qui n'est pas en français, qui n'est pas en grec. C'est la liturgie, c'est la communion et le dialogue avec le Dieu. Et si nous, les Roumains, on empêche les autres frères, qui sont nos frères, pas les autres, nos frères, orthodoxes comme nous, si nous, on empêche, si on ne donne pas la liberté aux Français, aux Grecs, aux autres, de participer et d'entendre la parole du Christ, qu'est-ce qu'on va répondre devant le tribunal du Christ quand Christ va nous demander « Qu'est-ce que vous avez fait pour vos frères ?» On va dire « Seigneur, tu sais, on se réjouissait ensemble, nous, entre nous, parce que l'orthodoxie, c'est que pour les Roumains. » Non, non, non. Non, 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 c'est pas comme ça. Essayez de vous ouvrir, de nous ouvrir tous, de nous ouvrir, de voir c'est quoi l'appel de Dieu pour nous, dans cette église, dans cette paroisse et dans toutes les paroisses de France. Et vous allez voir que si vous ouvrez le cœur vers les autres, peut-être il faut pas parler d'accueillir les Français dans notre église. Peut-être c'est pas ça, parce qu'on n'accueille pas, on n'accueille pas personne. C'est leur église, c'est notre église, on est ensemble dans l'église. C'est comme ça. Il faut toujours partir dans vos idées avec ça. On est ensemble. Roumains, Français, Grecs, Arabes, Syriens, Russes, Chinois, que Dieu nous aide d'avoir ensemble. Ensemble. C'est pas une église, c'est pas un ghetto. Ce n'est pas un ghetto roumain ou un ghetto français. Parce que ça, c'est aussi valable pour les Français. Dans un jour, peut-être il y a des Français qui voudront faire que des offices en français. Il faut mettre les mêmes bases. Il faut donner les mêmes explications. Voilà. Et en plus, et avec ça, je vais finir. Il faut savoir que pendant le 18e siècle, 19e siècle, c'était une hérésie qui a été condamné en Grèce, qui condamnait ça, le philétisme. C'est quoi le philétisme? Faites attention, c'est une hérésie condamnée par un synode. C'est quoi le philétisme? C'est de croire que l'Église, c'est surtout nationaliste, national. C'est une hérésie, faites attention. Faites attention à ça. L'Église, c'est universelle. Universelle. Elle est collée sur les administrations nationales, c'est une autre chose. C'est une autre chose parce qu'on a l'Église russe, l'Église roumaine, l'Église grecque, c'est autre chose. Mais on ne reste pas à ça. L'Église, c'est universelle. C'est pour chacun d'entre vous. Donc, partez avec ça. Je m'arrête ici. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde de toutes les épées du diable. Et essayez un peu de faire le démarche en vous-même pour voir comment est-ce que le diable vous attaque. Essayez d'avoir un peu ça. Avec toutes les passions qui nous assautent, avec tous les péchés qui viennent sur nous, avec toutes les tentations de chaque jour, voyez un peu comment le diable nous attaque. Et à la fin, je vais vous dire une petite histoire. Ça n'a rien à faire avec ce qu'on a discuté aujourd'hui. mais c'est très touchant pour moi. On pourra la lire un peu de la liberté intérieure. Saint Laurent, Santo Laurentio, pendant les grandes persécutions contre les chrétiens, il était prêtre. Et c'est lui qui conduisait les persécutions contre les chrétiens, a pris Saint Laurent et lui a dit: je sais que vous, les prêtres chrétiens, vous êtes très riches, vous avez des richesses inimaginables. Saint Laurent a dit: oui, c'est vrai, mais amène-moi tes richesses ici et tu seras sauvé, je ne veux pas te tuer. Je ne veux pas te tuer parce que bon, tu vas me donner tes richesses et je vais te lâcher. Pour voir un peu comment la liberté intérieure travaille. Et Saint Laurent a dit: bon, donne-moi deux jours pour que je vienne avec mes trésors chez toi. Le consul a dit: oui, bon, ça va, deux jours. Tu es libre deux jours. Après deux jours, Saint Laurent, il est venu avec ses richesses, avec son trésor, qui était quoi, à votre avis? Une foule de pauvres qui venaient avec lui. Sa richesse, c'était les pauvres qu'il a nourris chaque jour quand il a été prêtre, qu'il a soigné toujours quand il a été prêtre. Voilà le trésor de Saint Laurent, les pauvres. Voilà un trésor de la liberté. Vous croyez que notre liberté réside dans les choses matérielles? Non. Réside dans cette attitude de Saint Laurent. Quand il est venu devant le consul, l'histoire dit que le consul s'est converti au christianisme. Quand il a vu, il a été assez touché de ça qu'il s'est converti, lui et encore quelques-uns qui étaient autour de lui. Quand il a vu une foule de pauvres qui venaient avec lui, Saint Laurent et son trésor. On est capable tous de manifester notre liberté comme ça? Que Dieu nous aide. Amen.